Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est sous le soleil d'Égypte que Franck Ferrand nous invite cet après-midi sur Europe 1 avec une émission consacrée au désir, au plaisir et au sentiment amoureux au temps des pharaons.
Eh oui.
Tout un programme. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On parle volontiers des pratiques amoureuses à l'époque romantique, à la Renaissance, chez les Romains ou les Grecs, mais jamais ou très rarement de l'amour chez les Égyptiens. Alors comment les sujets des pharaons se séduisaient-ils? Quels étaient les plaisirs en vigueur sur les bords du Nil? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir cet après-midi.
Et vous avez d'ailleurs convié pour l'occasion une égyptologue réputée qui enseigne à l'Institut Khéops, Florence Maruéjol.
Florence Maruéjol qui a publié il y a un an maintenant « L'amour au temps des pharaons ». C'est dans son livre que je suis allé puiser le récit que vous allez entendre maintenant.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il est le type même du héros picaresque, de l'aventurier tel que l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire en a produit. Il était originaire de Turin et s'est engagé dès l'âge de 18 ans dans l'armée de Bonaparte, où il a grimpé les échelons jusqu'à celui de colonel. Bernardino Drovetti est choisi par Talleyrand pour être consul de France en Égypte. C'est lui, plus tard, qui recevra Champollion sur le sol égyptien. Nous avons parlé il y a quelque temps de ce voyage presque final de Champollion en Égypte. Et avant ça, Drovetti avait constitué, d'une façon dont il faut bien dire qu'elle n'était peut-être pas très recommandable, une impressionnante collection d'objets et de documents égyptiens, collection qu'il vend en 1824 au prince de Piémont, de la maison de Savoie donc. Alors, au moment où cet incroyable trésor arrive à Turin, donc en 1824, les conservateurs de la bibliothèque du prince réservent soigneusement les nombreux papyrus, à commencer par cette liste de rois égyptiens, tellement précieuse pour les historiens qu'on va appeler le canon royal de Turin. Si l'on en croit Drovetti, la quasi-totalité de ces papyrus proviendrait de Deir el-Médineh. Deir el-Médineh, c'est un petit village de la région de Louxor où habitaient jadis les bâtisseurs des tombes de la vallée des rois. L'un des manuscrits en question, daté de l'époque des Ramsès, reçoit la référence 55001. C'est une longue bande de papyrus, assez abîmée, malheureusement incomplète, qui mesure 2,59 m sur seulement 21,5 cm de large. Si je vous parle de ce rouleau en particulier, c'est que toute sa partie gauche, elle mesure environ 1,74 m. Toute cette partie se trouve couverte de scènes érotiques. L'action dessinée se déroule en 12 séquences indépendantes. Elle paraît se situer dans un lupanar où des hommes assez peu affriolants, faut bien le dire, ils sont laids de visage, chauves, gras, mais dotés de sexe avantageux, où ces hommes donc s'amusent avec de jolies jeunes femmes étonnamment passives, installées dans toutes les positions. En 1824, le premier grand égyptologue à se pencher sur le papyrus 55001 est le grand Champollion lui-même, le déchiffreur des hiéroglyphes qui était venu exprès à Turin pour inventorier et pour classer la collection Drovetti. Vous savez que Champollion entretenait avec son frère une correspondance suivie et dans une lettre à son frère, il évoque, je cite, « des débris de peinture d'une obscénité monstrueuse et qui me donnent une bien singulière idée de la gravité et de la sagesse égyptienne », dixit Champollion. Des obscénités telles en vérité qu'on les met tout de suite de côté et que le sulfureux papyrus va rester inédit pendant un siècle et demi. Inédit mais pas vraiment caché pour autant. Il est exposé au musée égyptien de Turin entre 1881 et 1943, en tout cas à plusieurs reprises. 1943, c'est la date à laquelle on le met à l'abri. On est en pleine guerre, évidemment. Il ne ressort pas à la Libération, en tout cas pas entièrement, parce qu'en 1965, les conservateurs du musée ont l'idée de le couper en deux pour exposer toute la partie droite qui, elle, est couverte de dessins satiriques très colorés qui montrent des animaux anthropomorphes dans toutes sortes d'activités. Mais les dessins érotiques, eux, doivent rester en réserve, loin des regards du public scolaire qui désormais hante le musée. On ne les ressortira, tous ces dessins bizarres, qu'en 1973, c'est un chercheur allemand, Josef Homlin, qui publie le papyrus In Extenso. Alors, que représentent les 12 scènes qui avaient tant choqué Champollion et qui avaient justifié la discrète éviction du manuscrit? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant.
D'extraits de la bande originale du film de Cléopâtre, un film de Joseph Mankiewicz.
Ça, c'est vraiment l'Égypte revue et corrigée par Hollywood, évidemment. Alors, outre ces dessins extrêmement explicites, le sulfureux papyrus 55001 comporte des commentaires qui ont été ajoutés a posteriori en écriture usuelle des scribes, on appelle ça le hiératique cursif. Ces inscriptions mentionnent essentiellement les propos échangés entre les personnages mis en scène. Je vous l'ai dit, les femmes sont fines, très attrayantes, avec de longues chevelures, signes de volupté et des bijoux qui témoignent de leur raffinement. Les hommes, au contraire, sont disgracieux, ventripotents et dotés de sexe impressionnant. 7 des 12 scènes nous montrent des couples en train de faire l'amour, parfois dans des postures et des situations un peu particulières, notamment dans l'habitacle d'un char. Il manquait pas d'imagination, ces Égyptiens. Alors, je vais pas entrer trop dans le détail des différentes positions. On reste quand même à une heure de grande écoute. Certaines sont très acrobatiques, il faut bien le dire. Je laisse aux plus curieux d'entre vous le soin d'aller voir tout ça sur Internet. C'est pratique. Maintenant, les 5 autres scènes, celles dont je vous ai pas parlé, évoquent plutôt des préliminaires, des préparatifs, y compris la toilette et le maquillage d'une des amoureuses. Tout ça enjolivé, encore une fois, d'apostrophes plus ou moins tendres, plus ou moins torrides. Bref, il va de soi que si ce document n'avait pas plus de 30 siècles, il ne nous apporte, s'il ne nous éclairait pas sur tout un pan de la vie de nos lointains aïeux, il serait rangé tout bonnement au rayon de la littérature érotique et il ferait sans doute pas l'objet d'une émission aussi châtiée, aussi relevée que la nôtre.
Évidemment,
Julia.
Bien sûr, évidemment. Faut-il le préciser.
En vérité, comme le dit Florence Marvejol, qui dans un instant va nous rejoindre dans ce studio, la grande question qui se pose, c'est de savoir quelle fonction ce papyrus pouvait bien remplir. La première piste à suivre, c'est celle de la juxtaposition sur cette bande de papyrus des ébats érotiques et des scènes satiriques. Vous savez, avec les animaux dans des rôles humains, etc. Ce document, semble-t-il, appartient dans son ensemble à la catégorie des pamphlets politiques. Josef Homlin, donc ce chercheur allemand qui a publié le premier, le papyrus, en 1973, Homlin accorde une grande importance à la mention au dos du papyrus du nom d'un général, défini comme porte-éventail à la droite du roi. Selon Homlin, les petits hommes chauves très occupés dans la partie érotique du papyrus seraient des prêtres. Et dès lors, il faudrait voir ce document comme une critique du milieu religieux de la part du milieu militaire. D'autres spécialistes estiment que le papyrus 55001 de Turin n'est pas à prendre avec autant de sérieux, il relèverait plutôt de la distraction aimable, genre blague de potache entre scribes. Ce n'est pas l'ultime hypothèse possible. Il existe en effet un quatrième type d'interprétation, selon Dieter Kessler, qui a formulé cette thèse. Le rouleau aurait plutôt une fonction religieuse. Les animaux multicolores de la partie droite, placés dans des postures humaines, auraient une forte connotation symbolique. Je lis Florence Maruejol, « Moqueuse, la représentation engendre une gaieté indissociable de certaines fêtes religieuses. N'oublions pas non plus que le rire se part de propriétés érotiques. Hathor réussit à dérider son père, le dieu solaire Ré, qui boude en retroussant sa robe pour le faire rire. » Et plus loin, « Animaux dans un monde inversé, ivresse et érotisme liés à la régénération et à la renaissance font partie des mêmes célébrations, avec ses scènes outrancières, grotesques ou burlesques et une chanteuse d'Hathor parmi ses héroïnes, ce qui n'est certainement pas un hasard. Le papyrus de Turin évoque probablement des épisodes de fêtes religieuses telles que les fêtes du Nouvel An, le tout dans la joie et la bonne humeur. C'est le moins qu'on puisse dire, je vous entends d'ici, derrière votre radio, ces Égyptiens quand même incapables de se passer de la religion, même dans l'érotisme le plus débridé. Eh bien, c'est peut-être précisément ce que nous avions à découvrir ou à rappeler cet après-midi. Alors comme vous êtes des auditeurs fidèles d'Europe 1, vous savez que jusqu'au 25 décembre, la Hotte de Noël est de retour avec plus de 1000 cadeaux à gagner. Et Julia se fait une joie de nous dire ce qu'il y a aujourd'hui dans cette
Hotte. Exactement, comme tous les jours. Eh bien, nous vous proposons de jouer pour un week-end remise en forme en demi-pension de 3 jours de nuit pour 2 personnes au Grand Hôtel 4 étoiles des Flamants Roses à Canet en Roussillon. Pour vous inscrire au tirage au sort, envoyez le mot de passe aujourd'hui, c'est le prénom Nicolas par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien appelez-nous au 39 21 34 centimes la minute. Nous vous souhaitons avec Franck bonne chance à tous.
La Hotte de Noël Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'amour au temps des pharaons.
Dans l'Égypte ancienne, l'amour est partout, nous dit Florence Maruéjol. Il ne laisse personne indifférent, ni les dieux, ni les rois, ni les hommes. C'est presque un plan d'émission qui nous est ainsi fixé. Même les morts réclament de l'amour, même les morts. Aimer et être aimé, tel est le rêve le mieux partagé dans la société égyptienne. Il touche toutes les classes sociales, ainsi qu'en témoignent les écrits, contes, poèmes, lettres, les représentations figurées et le matériel archéologique, et notamment, vous savez, ce qu'on appelle les petits ostracones, hein, c'est-à-dire les petits brouillons que les artistes utilisaient et qu'ils laissaient parfois derrière eux sur les chantiers et qui nous permettent d'avoir de la représentation que les Égyptiens se faisaient d'un certain nombre de réalités, une version toujours très spontanée. Bonjour Florence Maruéjol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, vous enseignez à l'Institut, il faut que vous nous parliez de cet Institut Khéops, juste en deux mots, expliquez.
Alors, l'Institut Khéops a plus de 25 ans d'existence, oui. Il est à Paris et il enseigne la langue égyptienne, enfin la langue égyptienne et ses différentes écritures, hein, hiéroglyphes, hiératiques, donc
des motifs
très savants. Mmh. Et parallèlement, il y a aussi des cours de civilisation, religion, histoire. Voilà. Donc
ça. Vous êtes les enfants de Champollion, si je puis dire.
Voilà, qui propose un enseignement très complet.
Ce qui est très frappant lorsqu'on s'intéresse à l'amour et à la sexualité à travers les différentes civilisations, c'est qu'on peut dire que, enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas de civilisation qui ne place pas ces questions, évidemment, au cœur de sa culture. C'est fondamental partout, mais on n'en parle quasiment jamais concernant les Égyptiens. On a l'impression que les Égyptiens passaient leur journée à prier, à construire des pyramides et à faire la guerre à un certain nombre de peuples voisins.
C'est un peu l'image que les Égyptiens ont donnée d'eux-mêmes, puisque bon, ce qui est plus connu du grand public, ce sont les grands monuments comme les temples avec ces reliefs où effectivement le roi et tous les personnages sont dans des positions extrêmement hiératiques, rigides. Dans les tombes également, bon, on a des représentations un petit peu plus vivantes parfois, bon, comme la culture des céréales, enfin ce genre de choses. Mais malgré tout, c'est vrai que les postures sont toujours un petit peu rigides. Et donc c'est cette image que les Égyptiens ont voulu donner, parce que bon, il y a une raison là aussi religieuse, à savoir que les temples, ben, il faut maintenir l'ordre du monde, hein, qu'il continue à fonctionner, et dans les tombes, bien sûr, c'est la vie éternelle que les Égyptiens ont en vue. Donc il n'est pas question d'être fantaisiste, en fait, dans ce type,
oui,
de monument.
On parle assez peu de sexe, quoique. Mais ces tombes, finalement, sont ce qui était destiné à l'éternité, à durer. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elles constituent l'essentiel de ce que nous a transmis cette civilisation égyptienne. Ça nous donne un peu l'idée, sans doute fausse, que cette civilisation, que ces Égyptiens pensaient essentiellement toujours à la mort, ou en tout cas à la vie après la mort.
Alors ça donne effectivement, bon, cette image, hein, puisque bon,
c'est un effet de perspective quand même, ça.
Oui, c'est-à-dire que la vie éternelle pour eux, c'est ce qui allait durer évidemment le plus longtemps, que la vie terrestre était très brève en comparaison de la vie éternelle. Mais comme vous le disiez fort justement, il y a ces documents, les ostracas, donc avec les scribes qui relatent un petit peu les faits de la vie quotidienne.
Et on dit, pardon, j'ai dit ostracone, c'est un ostracone des ostracas.
Voilà. Et donc ces documents là nous permettent d'approcher effectivement les comportements comportement de manière beaucoup plus intime en fait que ce qu'on peut voir dans les tombes ou dans les temples.
J'ai lu une des phrases de votre introduction qui évidemment pose question. Vous dites « même les morts réclament de l'amour ». Quel type d'amour ?
Alors là, on revient aussi un petit peu sur la religion. Alors déjà, bon, il y a cet aspect que la vie dans l'au-delà correspond pour les Égyptiens à ce qu'ils ont connu sur Terre. Alors comme ils appréciaient beaucoup en fait les plaisirs de la chair, faire l'amour était quelque chose évidemment qu'ils entendaient bien retrouver dans l'au-delà. Et en même temps, il y a aussi cet aspect religieux, à savoir que c'est l'énergie du mort. C'est-à-dire que si le mort fait l'amour à cette énergie vitale, eh bien, il va pouvoir continuer à vivre éternellement dans l'au-delà.
Alors ce qui est frappant, c'est que tout le panthéon égyptien, bien entendu, fait l'amour. Et ce que vous décrivez dans votre ouvrage, l'ouvrage s'appelle « L'amour au temps des pharaons », c'est publié chez First Histoire. Ce que vous décrivez, ce sont évidemment des sexualités limites, en quelque sorte. Ça fait penser à la mythologie grecque avec ses excès incroyables. Il se passe de drôles de choses chez les dieux égyptiens.
Alors c'est une sexualité effectivement assez exubérante, mais là aussi, c'est une explication, puisque les dieux sont à l'origine du monde, c'est eux qui ont créé le monde. Le premier d'entre eux, qui est le dieu solaire, va d'ailleurs procéder à la création du monde. Il est tout seul et procédera à la création du monde en se masturbant. Et c'est de son sperme que va jaillir le premier couple de dieux. Donc c'est ce qui est vraiment à l'origine de la création. Et en fait, tous les actes sexuels des divinités font en sorte que cette énergie fasse que le monde continue à fonctionner.
Il y a un aspect spécifiquement non seulement de fécondité, mais effectivement d'énergie dans ce sexe fondateur.
Voilà, constamment, il y a l'énergie divine qui est sollicitée et activée par le sexe et qui va continuer donc à...
Et ce que vous décrivez, c'est une semence que l'on récupère, si je puis dire, de toutes les manières possibles.
Oui, il y a des mythes.
Des mythes qui sont incroyables.
Les mythes qui expliquent aussi. L'idée, c'est d'expliquer comment le monde a été créé, comment les générations se succèdent, pourquoi il y a les enfants, les parents, comment la mort est arrivée sur Terre, pourquoi la stérilité existe. Et la stérilité, par exemple, est attribuée au dieu Seth, qui est le dieu des déserts. Donc il y a un mythe qui avait expliqué qu'on l'a émasculé à un moment donné parce qu'il était un peu turbulent. Et ce qui explique cette stérilité du dieu du désert et l'aridité de 96% du territoire égyptien.
Oui, c'est vrai que c'est un...
Mais ça n'empêche pas Seth d'avoir aussi une sexualité exubérante. Donc il y a des mythes comme ça qui se superposent. Le fait qu'il soit émasculé dans un mythe ne l'empêche pas de récupérer ses attributs dans un autre mythe.
Oui.
Voilà, parce que les dieux sont censés avoir des formes très différentes.
Alors quittons les dieux et rejoignons le domaine des hommes, à commencer par le premier d'entre eux pour les Égyptiens, évidemment, Pharaon. On peut dire que le roi, chez les Égyptiens, n'a pas la sexualité de Monsieur Tout-le-Monde.
Non, il a un régime assez particulier, parce que le Pharaon, c'est le personnage qui a été mis sur Terre par les dieux pour qu'il gouverne l'Égypte. Donc il a un statut un peu divin. Et bien sûr, l'idée déjà, c'est de se reproduire, d'assurer sa succession. Donc il a une grande épouse royale, parfois quelques grandes épouses royales qui sont les reines en titre. Et à côté, il a aussi des épouses secondaires et des concubines. Ramsès II, qui a toujours fait les choses en grand, lui avait un harem absolument considérable et il a engendré plus d'une centaine d'enfants, filles et garçons confondus. Polygamie, le pharaon est polygame, ce qui n'est pas le cas du reste de la société.
Est-ce que c'est une exception exclusive ou est-ce que d'autres grands personnages ont accès à la polygamie?
Très peu. C'est vraiment, il y a certaines périodes où des gouverneurs de province, par exemple, vont un petit peu calquer leur mode de vie sur le pharaon, mais c'est plutôt à des époques où il y a un affaiblissement de la royauté.
Alors le pharaon est non seulement polygame, mais il entretient des relations que nous considérerions, nous, comme incestueuses. Nous y venons, si vous le voulez bien, dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Thank you.
Tutankhamos, roi d'Égypte, extrait de Mozart, l'Égyptien, de Hugues de Courson, évidemment, Franck.
C'est Frédéric qui nous envoie un message. Parmi plusieurs messages, je peux pas tout lire là parce que... Mais Frédéric nous dit finalement, bien que plus récentes, les religions monothéistes... Alors il y a eu une petite parenthèse monothéiste hein, dans la période amarnienne
oui,
en Égypte,
oui, oui.
Mais enfin c'est vraiment une parenthèse. Les religions monothéistes sont quand même bien ringardes et castratrices. Ce qui est certain, c'est que ces religions polythéistes antiques donnaient à la fantasmatique, j'ai envie de dire, une expression immense et très variée et très poussée. Ça, c'est incontestable.
On peut... Et puis, ils étaient conscients que la création, c'est la génération, enfin, c'est la sexualité, tout passe par la sexualité, donc ils en étaient parfaitement conscients. C'est pour ça qu'ils avaient des représentations de cosmogonie. Enfin, comment ils expliquaient la création du monde, c'était
oui,
à travers
voilà.
la sexualité. Pour
Bien
eux,
sûr,
ça pouvait
oui.
être que ça. C'était...
Ben, c'est-à-dire alors, que toute,
après,
oui,
bon,
toute genèse passe par la sexualité
voilà.
Dans cette idée-là. Alors, revenons à notre pharaon. J'étais en train de dire qu'il lui arrive quand même d'épouser sa sœur.
Il lui arrive d'épouser sa sœur. Donc, il y a des mariages incestueux à la cour de pharaon. Alors, déjà, c'est limité.
À quelle époque, déjà,
au pharaon, voilà. Alors, ce sont des époques très précises. D'abord, bon, la quatrième dynastie qui est celle des bâtisseurs des grandes pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos. Donc là, il est tout à fait courant, en fait, que le pharaon épouse sa sœur ou sa demi-sœur. Le phénomène se reproduit aussi au début de la 11e dynastie, donc quelques centaines d'années plus tard, à une époque où un prince de Thèbes refait l'unité du pays. Donc c'est une époque un petit peu fragile et où en fait on a besoin de resserrer en fait l'unité du groupe familial qui est au pouvoir. Et à nouveau, on retrouve cette situation à la fin de la 17e dynastie, au début de la 18e dynastie, c'est-à-dire aux alentours de 1550 environ. Et à nouveau, c'est une période très troublée pour l'Égypte, où les princes de Thèbes refont une nouvelle fois l'unité du pays et ils resserrent les liens de leur famille, déjà entre eux et puis également d'ailleurs aussi avec le dieu Amon. Donc en fait, ce phénomène est assez particulier dans l'histoire de l'Égypte.
Il a des raisons politiques et dynastiques évidentes.
Voilà, il a des raisons politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'intérêt du groupe, l'intérêt de cette famille de se marier entre frères et sœurs. Parfois, bon, il arrive aussi à l'époque d'Akhenaton, le roi que vous avez cité, donc
oui.
cette époque très particulière de
monothéiste,
la religion et
donc,
l'histoire,
oui.
voilà, monothéiste de l'histoire de l'Égypte. Ramsès II, bon, qui lui fait rien comme tout le monde, épouse aussi une de ses filles, enfin, ou plusieurs de ses filles. Mais enfin, ça, c'est plus spécifique.
Sachant
disons que c'est plutôt
que
mariage entre frères et sœurs.
Les filles en question, alors ça dépend des interprétations et des égyptologues, mais certains nous disent que les filles qu'il aurait épousées n'étaient peut-être pas ses filles biologiques, c'est peut-être une appellation simplement.
Non, ça, il s'agit vraiment de ses filles, ça, là, il n'y a aucun doute, c'est bien précisé, de sa chair et autres. Non, il s'agit bien de ses filles. Ce qui reste à savoir, c'est si les mariages ont été consommés ou pas consommés. C'est plutôt là-dessus que les égyptologues discutent encore.
Alors, est-ce que, en dehors de la famille du pharaon, ce genre de licence existe? On a l'impression que lorsqu'on descend dans la société égyptienne plus classique, eh bien le mariage reste le modèle général.
Monogame, voilà, c'est un mariage monogame et pas de mariage consanguin, sauf on va retrouver ces mariages consanguins cette fois dans la population, mais à l'époque grecque. À partir du moment où l'Égypte sera dominée par les Ptolémées, une dynastie qui s'installe après la conquête d'Alexandre le Grand, alors dans la famille ptolémaïque, ce type de mariage existe, mais également dans la population grecque.
Alors c'est toujours quand même amusant de se demander ce qui se passait il y a 40 siècles quand même. Alors déjà, il y a 40 siècles, on se marie, je veux dire, avec une seule femme ou avec un seul homme, donc monogame. Est-ce que ce sont des mariages d'amour?
Alors bon, les mariages d'amour, bon, c'est ce que souhaitent les jeunes gens, ça on le voit à travers...
Mais on en a des témoignages de ça, oui.
On a une poésie amoureuse très, très riche et très belle. Et bon, on voit bien à travers cette poésie que c'est le rêve des jeunes gens, bien entendu, ben de tomber amoureux et bien sûr de conclure après. Bon, c'est
il y a une poésie il y a des textes de séduction, etc. On a des traces.
Alors
il
y a des formules, enfin des recettes de séduction, ça dans des livres des traités de médecine, mais qui ont aussi un rapport avec la magie. Donc des formules qui vont essayer d'embellir le jeune homme ou la jeune femme avec des recettes un petit peu particulières où dans les ingrédients on peut trouver de la graisse de souris, enfin ce genre de choses, ou des excréments aussi de quelque animal. Bon voilà, mais en fait c'est plutôt de la magie que réellement de la médecine. Bon voilà, quand on n'arrive pas à séduire par ses propres moyens et ses propres qualités, eh bien, on essaye de le faire de manière détournée à travers la magie.
Donc, on se marie, on essaie, on aimerait se marier par amour. Est-ce qu'il arrive qu'on divorce ?
Alors, le divorce existe, hein, mais il va être limité aussi par le partage du patrimoine. Puisque bon déjà la femme n'hérite dans ces cas-là enfin ne reçoit que qu'un tiers des biens et les femmes ne travaillent pas, elles sont c'est le mari qui travaille hein, c'est le mari qui nourrit le foyer, donc ça pose quand même des problèmes, ce qui fait que déjà les femmes ne devaient pas être très volontaires pour divorcer, bon sauf vraiment en cas de problème majeur, et pour les hommes aussi partager leur patrimoine, alors ils préfèrent peut-être avoir une maîtresse à côté. Bon,
on a des traces de ça?
Oui, oui, on a des traces, absolument. Mais justement, à travers cette littérature de Der el-Médineh, le village qu'on évoquait tout à l'heure, et les ostracas, où il y a certains cas qui passent un petit peu devant la cour de justice locale. Et bon, on a des témoignages, effectivement, de ce qui a pu se passer dans les couples. Il y a par exemple un père de famille qui vient trouver ce petit tribunal local pour se plaindre de son gendre qui insulte constamment sa fille. Et donc le gendre est convoqué pour qu'il prête serment de ne plus insulter sa fille parce que ça devient apparemment assez intolérable.
Insulter peut-être violenté, non, ça on ne sait pas en fait.
Parle d'insulte, bon, mais ça devait certainement être extrêmement déplaisant. Et on a aussi un père qui fait un acte notarié devant cette cour pour promettre à sa fille de l'héberger dans une resserre qui lui appartient en propre, hein, donc qui n'appartient pas à l'État, au cas où elle aurait à divorcer dans le futur. Donc il y a quand même ce souci de protéger
femmes. Qui a une dimension religieuse.
On n'a pas de traces. Hein.
On n'a pas de traces.
Non, apparemment, c'est un acte privé.
Civil,
le mariage est comme le divorce.
D'où le divorce. Hein.
Voilà.
Ouais.
Divorce et mariage sont des actes privés et qui ne passent pas ni devant les cours de justice, ni devant les notaires.
Mais alors, ça voudrait dire que dans ces conditions, l'adultère n'est peut-être pas si grave que ça en Égypte.
Alors, non, enfin, d'après ce qu'on voit là aussi à travers la documentation de Der el-Médineh, donc toujours rappeler
oui,
que c'est
sûr,
quand même
sûr,
un
oui,
point
oui.
de vue, hein, malheureusement, on n'a
évidemment
pas.
Évidemment, parcellaire, hein,
voilà,
on est très 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 loin en arrière, là, aujourd'hui.
Voilà. Mais, bon, on voit qu'effectivement, il y a eu des cas de tromperie manifeste, certains qui se terminent par des divorces, mais ça ne va pas au-delà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bastonnade ou enfin de.
Oui, il n'y a pas de lapidation,
de punition,
hein, c'est ça,
de châtiment
oui, oui.
extrêmement violent, alors que certains contes nous relatent des châtiments extrêmement violents, la femme punie, jetée dans le feu.
Est-ce qu'il y a justement, on a l'impression comme ça, vu d'un peu loin, qu'il y a une forme un peu d'égalité homme-femme. Mais ce que vous montrez, c'est que c'est pas si évident que ça. La femme est quand même dans
non,
sa
parce
statue.
Qu'il y a un rôle très précis de la femme oui. dans la société égyptienne, c'est engendrer des enfants, s'occuper du foyer, et c'est l'homme qui travaille. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, on n'a aucune femme fonctionnaire. C'est un métier d'homme, c'est eux qui sont formés, ce sont les garçons qui sont formés dans les écoles qui dépendent des administrations, et les femmes en fait n'ont pas de profession. Bon, c'est là où je dis que c'est assez difficile pour elles de divorcer, enfin, ce ne sera pas leur choix premier, dans la mesure où ça pose quand même des gros problèmes, sauf si elles ont des héritages familiaux, bon là, elles sont peut-être un petit peu plus libres financièrement.
Alors il se trouve que nous avons aujourd'hui en régie des stagiaires de 3e que je salue, je ne sais pas si ça tombe bien, mais nous allons parler un peu plus de sexualité dans la dernière partie de cette émission. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël.
Et pour tenter de gagner un week-end remis en forme en demi-pension de 3 jours de nuit pour 2 personnes au grand hôtel 4 étoiles des Flamants Roses à Canet en Roussillon. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe aujourd'hui, c'est le prénom Nicolas. Vous l'envoyez par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous appelez le 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à tous et le nom du gagnant sera accessible dès demain sur Europe1.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Thank you.
L'enlèvement au Sarraï, nouvel extrait de Mozart l'Égyptien de Hugues de Courson. Si vous avez des questions sur les amours et la sexualité au temps des pharaons, il est grand temps, je vais dire, de le faire maintenant. Il reste 8 minutes.
Quelques minutes, voilà, exactement. Alors, dans cet ouvrage paru chez First Histoire, L'amour au temps des pharaons, Florence Marvejol évoque toutes sortes d'aspects de la séduction, de l'amour, de la famille, du sexe, évidemment, dans l'Égypte antique. Vous nous parlez très peu d'homosexualité, un petit peu quand même, vous parlez des amours furtifs d'un roi et d'un général.
Voilà, parce que les sources, en fait, en parlent assez
courtes,
peu.
Oui,
voilà,
bien sûr.
On parle assez peu.
En revanche, nous suivons les exploits, si je puis dire, de certains personnages qui ont échappé à l'oubli du temps. Il ne faut quand même pas oublier qu'on parle d'événements qui ont eu lieu il y a des dizaines de siècles. Hein. C'est toujours donc, très 3000, impressionnant.
3500 ans.
Qui c'est ce fameux Paneb là?
Alors, Paneb est un chef d'équipe de Der el-Médine, c'est-à-dire que c'est un des deux chefs qui dirigent les ouvriers qui travaillent dans les tombes royales de la Vallée des Rois. Et ce chef d'équipe est extrêmement turbulent, enfin c'est même
c'est
voyou,
le
c'est
dire,
un
oui.
voyou, et il se permet absolument tout.
Alors lui, pour le coup, il est quasiment accusé de viol. Hein.
Enfin, il est accusé de viol. Enfin bon, une citoyenne, enfin de la ville là, qui bascule sur un muret, enfin bon, sans doute au vu et au su de tout le monde. Enfin bon, il a absolument aucune limite. Il détourne le bien public. Il est allé profaner aussi la tombe d'un pharaon. Il a le postérieur assis sur le sarcophage du pharaon, il vide force jarre de bière ou de vin. Enfin bon, c'est un personnage absolument affreux qui détourne donc les biens. Enfin bon, et effectivement, la sexualité de Paneb est aussi extrêmement exubérante. Il a des maîtresses, il provoque aussi le divorce de ses femmes parce que les maris ont beau être complaisants, au bout d'un certain temps, ils finissent par se lasser quand même des infidélités répétées de leur épouse. Donc un personnage extrêmement déplaisant, mais qui sera finalement châtié.
Évidemment, l'égyptologie est née au XIXe siècle, dans un siècle où le moins qu'on puisse dire est qu'en Occident, en Europe, la sexualité n'avait pas trop droit de cité. Peu à peu, les égyptologues se sont un peu ouverts. Votre ouvrage en est la preuve, Florence Marvejol. Est-ce qu'on redécouvre, depuis quelques décennies maintenant, est-ce qu'on redécouvre des aspects de cette ancienne société égyptienne qui avait été un peu passée sous silence?
Oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup, en fait, au comportement, hein, aux mentalités, et pas uniquement à l'histoire événementielle. Bon, ça, c'est un courant plus général, en fait, dans l'histoire. Et donc, ce qui a permis, bon, d'approfondir un petit peu, de voir ces approches des Égyptiens qui sont pas... Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Et notamment, enfin, au niveau de la séduction, pour eux, par exemple, une perruque de femme très lourde, bien épaisse, est le signe que la femme est disponible pour l'acte sexuel.
Les cheveux, la perruque jouent un rôle essentiel.
Voilà,
hein, c'est une arme de séduction.
Voilà, et c'est un code. C'est-à-dire que, bon, on va se dire, en voyant une belle égyptienne, la perruque très fournie, oh, comme c'est joli. Mais pour les Égyptiens, eux, ils y voyaient autre chose. Ils y voyaient un signe de disponibilité de la femme.
C'est vrai qu'il y a, dans cette Égypte antique, un goût du postiche. Il suffit de voir les attributs royaux du pharaon, tout simplement. Il y a des ajouts. Vous parlez de tatouages également.
Oui, pour certaines prêtresses ou certaines femmes, effectivement, le corps pouvait être tatoué. Donc, on ajoute un petit peu à la séduction aussi à travers quelques tatouages.
Alors, pour boucler la boucle, je reviendrai à notre papyrus 55001. C'est son numéro de classification au musée égyptien de Turin. Hein,
voilà. Donc, et on dit aussi le papyrus érotique de Turin.
Érotique, tout simplement, de Turin, hein, qui est devenu une sorte de document culte, si je puis dire. Dans ce document, les jeunes femmes sont très belles, elles ont de jolies lignes, elles sont fines, très attrayantes, et les hommes sont des espèces de gros personnages, tout petits, ventripotents et assez répugnants. Ça vient d'où, ça?
Là aussi, enfin, on a des codes de séduction. Donc on voit bien dans le papyrus de Turin, les dames ont une perruque très fournie.
Oui, très fournie.
Et les hommes sont chauves, enfin, chauves pas complètement.
Parfois
ils ont
un peu
une calvitie syncipitale, enfin sur le front. Et là, pour les Égyptiens, la calvitie et le reste des cheveux, ce qui reste comme cheveux ébouriffés, est le signe, en fait, là aussi, d'un appétit sexuel assez débordant de la part des messieurs. Et on a même des représentations de dignitaires, des grands dignitaires, qui se font représenter avec cette calvitie et qui déposent les statues qui le représentent de cette façon dans les cours des temples, avec bien sûr la permission du roi. Et ce qu'ils attendent de cette statue, c'est que les dames viennent les prier d'intercéder en leur faveur et de solliciter la déesse Hathor. Et alors, comme ce sont des grands personnages, enfin, ils ont une bonne écoute de la déesse Hathor. Et l'idée, en fait, c'est que ces dames viennent demander à la déesse de leur trouver un époux. Le chauve, donc le dignitaire, promet en fait d'intervenir. Mais en échange, il attend en fait un service, c'est que ces dames viennent apporter des offrandes. Et il prévient, mais attention, hein, celle qui va me demander de parler à la déesse, bon, moi je vais vous obtenir quelque chose parce que j'ai vraiment une très bonne écoute de la déesse, mais si en échange vous ne m'apportez pas d'offrande, attention, là je vous assure que vous n'aurez pas de mari et vous dormirez seul, dit le chauve.
Ma question est totalement désintéressée, Florence Maruéjol, mais est-ce qu'il existe des recettes? On sait à quel point les Égyptiens étaient férus d'onguents, de préparations de toutes sortes, etc. Il y a des recettes érotiques ou pour stimuler la sexualité?
Absolument, oui, oui, tout est prévu, mais bon, là aussi c'est plutôt de l'ordre de la
magie.
De la magie sympathique, c'est-à-dire qu'on va avoir des recettes à partir d'ingrédients à qui on prête une certaine force. Si on prend par exemple le poil d'un animal extrêmement robuste pour faire repousser les cheveux d'un chauve par exemple, ça va rentrer dans la recette, mais ce qu'on espère c'est que la vigueur de l'ingrédient va se communiquer en fait au personnage.
Pour provoquer ce doux sentiment, écrivez-vous, les représentants des deux sexes ne ménagent pas leurs efforts. Perruques, vêtements, parfums, bijoux, tous les artifices sont là pour séduire. On en usera à volonté pour éveiller ou entretenir le sentiment amoureux et le désir. Et si malgré tous les efforts déployés, les résultats se font attendre, la magie est là pour donner un coup de pouce aux désenchantés. Avec des recettes proclamées infaillibles, elle se fait fort de venir à bout de toutes les résistances et d'éliminer rivaux et rivales. On se dit que les siècles, les dizaines de siècles passent et que finalement un éternel humain est là, toujours présent.
C'est ce qui est très touchant en fait dans la civilisation égyptienne. C'est vrai que bon, d'approcher ces comportements et cette intimité, bon, c'est vrai qu'on a des choses qu'on retrouve évidemment dans notre société.
L'éternel humain, Florence Maruéjol, L'amour au temps des pharaons, c'est publié chez First Histoire. Bonjour Elena.
Bonjour Franck. Alors nous allons passer d'une gourmandise à une autre. Oui. Nous allons nous intéresser aux vacances et aux locations saisonnières. Vous avez tous fait appel un jour à une location, une maison de location à bord de mer, à la montagne. Et puis vous attendiez le rêve, vous vous êtes retrouvé les pieds dans la gadoue. C'était pas du tout ce qui correspondait à la description sur le papier. Quel recours? Et comment mettre aussi soi-même son appartement ou sa maison en location? On en parle avec les experts qui attendent comme chaque jour vos questions au 3921. C'est toujours 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des gens qui échangent leurs appartements aussi. Hein,
ça fera l'objet d'une autre émission.
Ah bon, pardon,
c'est celle-ci qui vous intéresse.
Non, pas du tout.
Mais il a raison, c'est dans l'air du temps.
C'est très dans l'air du temps. On parlera même du couch surfing. Vous savez, vous pouvez surfer sur le canapé de...
Gratuitement, chez
gratuitement,
les gens.
Exactement. Mmh.
Si vous avez besoin de sujets, n'hésitez pas.
Oui, il est programmateur également le week-end.
Merci beaucoup à toute l'équipe, à Lorena Martin, bien entendu, à Boris, à Guillaume, notre réalisateur. Et nous nous disons à demain, Julia.
À demain, Franck, sur Europe 1, bien entendu.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.